Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Mathilde L'Oeil. Aujourd'hui, c'est à un article de Rue 89 Bordeaux que nous consacrons cet épisode. Son titre, Enfant placé, la rue pour horizon. Cet article, c'est le vôtre. Bonjour Jean-Berthelot de Lagleté.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes journaliste indépendant, cofondateur de Podcasting et vous avez donc écrit cet article pour Rue 89 Bordeaux. Cet article qui parle des enfants placés en foyer ou en famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionne l'aide sociale à l'enfance ?
Oui, l'aide sociale à l'enfance que l'on appelle plus communément l'ASE a pris en quelque sorte le relais de la DAS qui est plus connue, peut-être qui reste aujourd'hui plus connue. Et l'idée c'est la même, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper des enfants pour lesquels il y a des manques dans la famille, des manques éducatifs, des manques sociaux, etc. Alors les prises en charge peuvent être variées, il peut s'agir d'un suivi ponctuel et ça peut aller jusqu'au placement. Et donc c'est l'ASE qui a la charge des enfants que l'on appelle les enfants placés.
Un placement jusqu'à la majorité. Avec la crise sanitaire, qu'a mis en place l'aide à l'enfance pour ces enfants qui sont devenus majeurs en pleine pandémie ?
Oui, alors effectivement, l'aide sociale à l'enfance s'occupe de ces enfants jusqu'à leur majorité. Et ça, c'est le principe. Et ensuite, assez souvent, de leurs 18 à leurs 21 ans, on va le voir un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est que le gouvernement a accepté que les enfants placés qui atteignent l'âge de 18 ans, donc qui deviennent majeurs, ne soient pas mis à la porte de ce dispositif, ce qui était le cas aujourd'hui au bon vouloir de l'ASE. Il faut savoir que l'ASE fonctionne par le département, c'est le département qui est responsable de l'ASE et c'était donc le département qui choisissait jusqu'au début de la crise sanitaire éventuellement de mettre à la rue des jeunes adultes de 18 ans sortis du dispositif de l'ASE ou bien de les accompagner jusqu'à leurs 21 ans. La crise sanitaire arrive, mars 2020, le gouvernement dit on ne peut plus mettre à la rue des enfants placés, même s'ils atteignent 18 ans, quoi qu'il arrive, on les accompagne jusqu'à la sortie de la crise sanitaire. Et cette sortie, donc, pour le gouvernement en tout cas, elle a eu lieu le 1er octobre dernier. Et donc depuis le 1er octobre, cette mesure a sauté, on en revient à ce qui existait avant, c'est-à-dire que selon leur bon vouloir, les départements peuvent accompagner ces jeunes ou encore une fois, les mettre à la rue dès 18 ans sans aucun accompagnement.
Et justement, vous l'expliquez dans votre article, il y a eu des différences d'un département à l'autre.
Oui, et ça c'est historique, hein, ça n'est pas né avec la fin de cette mesure. Hein. Il y a des départements qui consacrent des budgets très différents à à l'aide sociale à l'enfance. Alors, il y a un budget global qui est ensuite dispatché par département, mais les départements ont une certaine latitude. Et donc, il y a des départements qui sont des meilleurs élèves que d'autres, tout simplement. Donc, en tout, si on prend les chiffres de 2018, il y a eu 8,3 milliards d'euros qui ont été dévolus à ce dispositif de l'ASE, au plan national bien évidemment. Et ensuite, les départements, encore une fois, n'y consacrent pas forcément le même budget. En 2017, par exemple, le Rhône n'y dédiait que 5% de l'ensemble de ses aides sociales, alors qu'on était à 19% en Charente-Maritime. Si on prend la Gironde, qui est un département auquel je me suis un peu plus intéressé dans ce papier, eh bien, la Gironde a consacré 272,5 millions d'euros à la protection de l'enfance en 2020. Ça représente 14,5% de ses aides sociales. Donc on voit que la Gironde est plutôt dans le haut des départements. C'est plutôt un département où les choses se passent le moins mal, on va dire. Et c'est aussi ce budget, une augmentation de 42% par rapport au mandat précédent. Donc on voit qu'il y a des différences de budget, évidemment, qui sont allouées à l'aide sociale à l'enfance, et il y a aussi des différences de traitement, c'est-à-dire qu'il y a des départements, et cela de longue date, qui franchement n'accordent que très peu d'importance à la lutte pour essayer de faire en sorte que ces enfants soient accompagnés. On peut citer notamment les Hauts-de-Seine, qui est pourtant l'un des départements les plus riches de France, et ça ne date pas d'hier. Il y a régulièrement, malheureusement, des faits divers liés à cela. Il y a quelques années notamment, il y avait un mineur qui en avait poignardé un autre dans un hôtel où ils avaient été laissés sans surveillance, sous la responsabilité de l'ASE. effectivement, les remontées que j'ai eues, moi, en interrogeant les travailleurs de terrain, les spécialistes, c'est que dans certains départements, dont les Hauts-de-Seine, effectivement, à peine cette mesure était-elle tombée, que certains jeunes majeurs étaient remis à la porte, effectivement, sans aucun accompagnement. Ça n'a pas été le cas en Gironde. Il y a simplement le cas que je cite d'un jeune majeur qui, pendant cette mesure, aurait pu être poussé dehors durant cette protection. Mais c'est un cas un peu particulier. Je l'indique d'ailleurs dans ce papier. Mais sinon, la Gironde a appliqué cette mesure et, depuis le 1er octobre, n'a pas mis de jeune majeur à la porte.
Évoqué tout à l'heure, il y a des possibilités d'accompagnement entre 18 et 21 ans. Concrètement, qu'est-ce qui existe ?
Alors effectivement, d'abord le département donc accompagne jusqu'à 18 ans et ensuite il est normalement tenu, dès lors que le jeune a un projet, d'accompagner ce jeune jusqu'à l'issue de son projet et jusqu'à 21 ans. Donc en théorie, si un jeune par exemple souhaite poursuivre des études, le département doit l'accompagner jusqu'à 21 ans. Il faut bien comprendre en fait la logique de ce qu'est l'aide sociale à l'enfance. Sa logique en théorie, c'est de se substituer aux parents lorsqu'ils ne sont plus là ou lorsqu'ils ne peuvent plus, pour X ou Y raison, s'occuper de leurs enfants. Et donc, dans certains départements font le choix d'accompagner et finalement d'être bienveillant au regard des projets qui leur sont présentés et de pas forcément mettre un cadre trop strict et dès lors qu'il y a un minimum de volonté de la part du jeune de l'accompagner jusqu'à ses 21 ans. Mais d'autres départements sont beaucoup plus stricts et estiment, et c'est là un peu où le bât blesse pour le moment, c'est-à-dire que ces départements estiment que le projet n'est pas assez abouti. Mais il n'y a pas, pour l'instant, il y a une sorte de flou, il n'y a pas de définition de ce que doit être exactement un projet d'un département à l'autre. Et c'est ce qui permet ces différences de traitement entre deux départements. Pour résumer, aujourd'hui, cette obligation que devraient avoir les départements d'assumer la responsabilité des parents, eh bien, elle n'est pas complètement remplie, y compris jusqu'à 21 ans, mais même, on pourrait se dire, et d'ailleurs des interlocuteurs me l'ont dit, normalement les départements devraient avoir, comme les parents, l'obligation d'accompagner ces enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, donc jusqu'à ce qu'ils aient par exemple terminé leurs études. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et ça a des conséquences très graves pour ces enfants placés.
Et est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on sait combien de jeunes majeurs peuvent bénéficier d'un contrat jeune majeur justement ?
En théorie, ils peuvent tous en bénéficier, tous n'en font pas la demande. C'est notamment le cas de l'un des témoins que j'ai interviewé, hein, qui est une jeune femme qui s'appelle Charlie, et qui, elle, dit « Moi, je voulais plus rien avoir à faire avec l'ASE, donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai quitté, j'ai plus rien demandé à personne. » En Gironde, en tout cas, ils sont 1500 jeunes majeurs à bénéficier de cet accompagnement. Ce qui est terrible, c'est que dans l'année de leurs 18 ans, ils sont 60% à décrocher un contrat jeune majeur. Là, je parle au plan national. Hein. À 19 ans, il n'y en a plus que 30%. Et à 20 ans, on n'a même pas les chiffres, mais c'est sans doute un nombre infime. Et là, effectivement, il y a quand même un gros problème, parce que à quoi cela aboutit, en fait, tout simplement, et c'est d'ailleurs ce que dit Lila, on va revenir sur Lila, mais elle n'est pas la seule à le dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des ambitions, mais si on se dit, ben, mes ambitions m'amènent à terminer mes études après 21 ans, eh bien, je ne serai plus accompagné, je n'aurai plus droit qu'aux bourses, comme un peu tout le monde, mais tout le monde sait aujourd'hui que les bourses ne suffisent pas, malheureusement, à vivre. Donc, je vais un peu réduire mes ambitions, et finalement, viser quelque chose que je pourrais atteindre en 3 ans, c'est-à-dire avant mes 21 ans ou d'ici mes 21 ans. Et encore, c'est pour ceux qui n'ont pas redoublé, c'est-à-dire ceux qui passent le bac à 18 ans. Donc c'est un système qui malheureusement limite énormément les ambitions des enfants placés. La conséquence, c'est que 70% des enfants suivis par l'ASE quittent ce dispositif de l'ASE sans aucun diplôme.
Avec un nid.
justement, Lila, c'est une jeune femme que vous avez interrogée. Elle a bénéficié d'un contrat jeune. Comment ça s'est passé pour elle ?
Lila, d'une certaine manière, sa chance, entre guillemets, c'est que elle est devenue majeure durant le confinement. Et c'est un moment, comme je vous l'ai dit, où les départements ne mettaient pas à la porte les enfants placés, même les jeunes majeurs. Donc elle a eu quasiment automatiquement son premier contrat jeune majeur de 18 à 19 ans. Il a été reconduit pour les mêmes raisons de 19 à 20 ans. Et elle s'apprête à avoir 21 ans dans quelques mois. Elle est dans un département qu'elle n'a pas souhaité que je cite. Toujours est-il qu'elle ne sait pas quelle sera l'attitude de ce département lorsqu'elle aura 21 ans, et peut-être que ce département va cesser de l'accompagner. Et donc, elle est un peu dans l'angoisse de savoir un peu ce qui va se passer une fois qu'elle atteindra cet âge-là, et notamment si elle va pouvoir poursuivre ses études. Lila, elle est à l'image de beaucoup de ses enfants. Elle avait des rêves. Son rêve, c'était d'être infirmière. Sauf que le nombre d'années que demandent les études d'infirmière, c'est 5. Et elle, malheureusement, n'avait pas 5 ans d'assuré devant elle, d'une certaine manière. Et donc, elle s'est rabattue, entre guillemets, c'est pas du tout un jugement de valeur sur ce métier, mais son rêve a dévié et donc elle a choisi de suivre des études d'aide-soignante en 3 ans qu'elle est en train de terminer.
Ceux qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne bénéficient pas de ces contrats jeunes majeurs, quel avenir s'offre à eux concrètement ?
L'avenir qui s'offre à eux, malheureusement, il est très sombre et il a un horizon, c'est la rue. C'est d'où le titre de mon papier. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'INSEE qui l'affirme, 23% des SDF seraient d'anciens enfants placés. Ce qui est un chiffre terrible parce que les enfants placés ne représentent que 2% des mineurs. Pour le dire autrement, lorsque vous êtes un enfant placé, vous avez plus de 11 fois plus de chances qu'un autre enfant de terminer à la rue. Et là, c'est quelque chose qui doit tous nous interroger et qui doit tous nous amener à essayer, de mon point de vue, de remettre en cause ce système. Ces enfants placés, ils ne votent pas encore. Peut-être ne voteront-ils jamais parce que assez souvent ils sont assez dégoûtés d'une société qui ne les a pas suffisamment aidés. Ils n'ont pas de lobby, ils n'ont que très peu de représentants. Et donc, d'une certaine manière, ils sont un peu délaissés par tout le monde et peu de gens s'en soucient. Et aujourd'hui, ils subissent une triple injustice. Les choses se passent mal dans leur famille, la plupart du temps, bien évidemment. Dans les foyers, dans les familles d'accueil, il y a énormément d'abus. Il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail là-dedans. Mais il y a aussi malheureusement énormément d'abus. Et ensuite, quand ils quittent ce système-là, et c'est là la triple injustice, ils ne sont pas suffisamment accompagnés et leurs rêves doivent être limités à ce que leur propose la société. Et cette triple injustice, elle est inconcevable en 2021. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ce sujet.
Parmi les témoignages dans votre article, on retrouve celui d'Elina Dumont, qui est aujourd'hui comédienne, intervenante sur la radio RMC. Elle s'est retrouvée à la rue à 18 ans, après avoir grandi en foyer, et pour elle, ça a été l'enfer.
Oui, c'est ça. Mais elle fait partie de ces nombreux exemples, qui, effectivement, du jour au lendemain, quand elle a eu 18 ans, se sont retrouvées à la rue. Alors elle, en l'occurrence, un matin, elle se levait dans son foyer, puis on lui a dit, voilà, à 16h, il faut que tu sois partie. Et donc elle a pris quelques affaires, elle les a mises dans un sac et elle a pris le premier train pour Paris. Et malheureusement, une fois arrivée à Paris, bien effectivement, elle est allée de Garibancy-là. Vous le disiez, c'était l'enfer, effectivement. Elle a, pendant 15 ans, elle a connu la rue. Et elle s'est prostituée, soit pour un toit, soit pour du crack, hein, comme elle le dit. Fort heureusement, elle est sortie de cette galère-là, de cette succession de galères. C'était il y a 35 ans. Mais son exemple n'est malheureusement pas du tout isolé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Et est-ce qu'il y a des pistes de réflexion au niveau législatif, notamment pour mieux accompagner ces enfants placés à leur majorité ?
Il y a des pistes de réflexion. Il y a un projet de loi qui devait être examiné cet automne. Finalement, son examen a été reporté à décembre. Mais ce que disent les associations, c'est que ce projet de loi n'est pas du tout assez ambitieux. Et pour résumer leur point de vue, hein, parce que bien sûr, ces points de vue-là sont divers et nombreux, etc. Mais entre les travailleurs, les personnalités politiques qui s'engagent en faveur de ce débat, et elles sont quand même de plus en plus nombreuses, et fort heureusement, et je pense notamment à la députée Perrine Goulet, qui est elle-même une ancienne enfant placée et qui porte cette voix-là et qui continue de se battre aujourd'hui. On peut penser aussi aux associations d'anciens enfants placés en Gironde. Elle est même très active, elle s'appelle l'ADEPAP 33. Et donc tous ces gens-là estiment à peu près à l'unisson que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un véritable accompagnement de substitution des parents. C'est-à-dire que l'on accompagne ces enfants non seulement jusqu'à 18, mais aussi jusqu'à 21 ans, mais surtout jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études, qu'ils soient autonomes, de la même manière que des parents le feraient pour accompagner leur enfant. Aujourd'hui, si un parent cesse de subvenir aux besoins de son enfant, alors même qu'il n'est pas autonome, il peut être condamné par la justice. Eh bien, ces associations, ces intervenants, ces travailleurs aimeraient qu'il existe exactement la même chose pour les départements. Vous lâchez ces enfants sans qu'ils soient autonome, eh bien le département est condamné.
Merci Jean Berthelot de la Gletta d'avoir été avec nous.
Merci Mathilde.
Votre article « Enfants placés, la rue pour Horizon » est à retrouver sur le site de Rue 89 Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Echea et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.